Et j'aimerais commencer à lire quelques versets dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, verset 37. Ces versets qui sont très connus et qui parlent du Saint-Esprit. Le sujet de ce soir n'est pas le Saint-Esprit, mais il faut reconnaître que dans le combat spirituel dans lequel nous sommes, eh bien, le secours du Saint-Esprit est d'une grande efficacité et indispensable pour ce combat. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si quelqu'un a soif, bien si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons soif de la parole de Dieu, soif d'entendre cette parole qui nous est nécessaire aussi pour que notre vie ici-bas sur cette terre, nous avons besoin d'être édifiés. Et le sujet, Amalek vint combattre, ou la guerre spirituelle, ou le combat spirituel. Non seulement nous avons besoin dans ce combat de la parole de Dieu, mais aussi du Saint-Esprit pour nous aider, pour nous encourager, pour nous prendre aussi par la main quand les temps sont difficiles. Je vous invite à chanter ce cantique. C'est vrai que nous sommes dans un combat, mais la victoire, nous l'avons en Jésus-Christ. Et nous pouvons le chanter en nous levant, « Victoire au Seigneur de la vie ». Si nous sommes victorieux, c'est parce que notre Seigneur et Sauveur a été victorieux. Savoir que nous sommes déjà victorieux dans ce combat. Prions le Seigneur, je demande à Thierry de bien vouloir venir pour prier.
Inclinons-nous dans la prière pour remettre cette soirée à notre Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous permets d'être ici ce soir. Merci parce que tu veux nous apprendre encore à découvrir les choses merveilleuses qui sont dans ta parole. Seigneur, tu veux nous montrer vraiment la voie que nous devons suivre. Tu veux nous montrer que ce combat spirituel, Seigneur, tu l'as mené. Tu l'as mené jusqu'au bout et c'est toi qui en étais victorieux. Et Seigneur, tu veux nous montrer par ton exemple que cette guerre spirituelle, ce combat spirituel, nous avons à le mener, nous n'avons pas le choix, mais nous allons le mener avec toi et que nous sommes aussi victorieux. Et Seigneur, tu nous donnes cette assurance que la victoire est au bout et que nous n'avons qu'à courir après cette victoire. Merci pour les moments que nous allons passer ensemble et je te remets notre orateur de manière à ce que tu le bénisses, que tu lui donnes les paroles que tu veux dans sa bouche et que ce soit des paroles d'encouragement, de réflexion qui nous mène ce soir dans ce bon combat. Amen.
Je vous invite à chanter le 361 dans le recueil À toi la gloire. Quel bonheur de marcher avec lui, même si nous sommes dans le combat, eh bien, cela vaut la peine de vivre et de marcher avec le Seigneur Jésus. Quel bonheur de marcher avec lui. J'aimerais, avant de laisser la place à notre orateur, pasteur Maurice Decker, le présenter rapidement et dire que notre frère a été pasteur en Bretagne pendant plusieurs années, 10 ans. Et maintenant, il est au service du Seigneur et sert le Seigneur avec joie et bonheur, comme nous venons de le chanter. Il est conférencier, il circule dans les pays francophones, les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Madagascar aussi, le Canada, et bien sûr en France, pour semer la parole de Dieu, pour édifier les chrétiens, pour encourager les chrétiens. Et il est avec nous ce soir pour nous parler de ce sujet, Amalek vient combattre ou la guerre spirituelle. Notre frère est marié, père de 4 enfants, voilà, c'est bien ça, Maurice, oui, voilà, qui sont déjà grands. Et son épouse n'a pas pu être des nôtres parce qu'elle a eu une chute et elle s'est fait mal au genou. Nous pensons bien à elle dans la prière. Notre frère aussi est écrivain, le Seigneur lui a donné ce don. Et il édifie aussi, il encourage aussi par les livres que je vais vous présenter tout à l'heure. Maintenant, nous voulons lui laisser toute la place pour l'enseignement de la parole de Dieu.
Eh bien, bonsoir à tous. C'est ma joie d'être de retour dans la maison. Et je dis bien de retour parce que ce n'est pas ma première venue ici. Et je vais profiter du temps qui m'est donné tout d'abord pour faire un sondage, même si nous ne sommes pas nombreux ce soir. Simplement vous poser la question, qui d'entre vous était non pas dans ce bâtiment, il n'existait pas encore, mais dans un autre lieu, dans le cadre de l'église de Saint-Quentin-en-Yvelines, en avril 1980. Voilà, deux, voilà, voyez qu'on a vite fait le tour. Une personne en fait. Hein. C'était ma première visite à cette église, qui a fait du chemin depuis et que j'ai eu la joie de revisiter les 16-18 mars 1990. Alors là, je pense qu'il y en avait peut-être un peu plus qui étaient là. Qui était là en 90 déjà? Voilà, ça augmente peu à peu. Ça, c'est un de mes privilèges en voyageant beaucoup, en visitant certaines églises de temps à autre, de voir si elles grandissent ou si elles diminuent, parce que ça arrive aussi, hélas. Mais je suis heureux d'être avec vous pour cette première soirée déjà, qui se voudra soirée d'introduction. Nous allons lire ensemble trois passages. Le premier, bien entendu, vous le connaissez, puisqu'il est le thème de notre série dans Exode au chapitre 17. Exode 17. Nous allons lire la totalité de ce chapitre pour bien placer les versets qui vont nous intéresser de près dans leur contexte. Exode chapitre 17. Et je vous encourage à suivre la lecture. Je lis au verset premier. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif et murmuré contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants, mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté, l'un de l'autre, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom Yahvé Nissi, l'Éternel, ma bannière. Il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Philippiens, lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 1er, Philippiens chapitre 1er, les versets 27 à 30, donc la fin de ce chapitre 1er, Philippiens chapitre 1er, versets 27 à 30. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, ou marchez mener une vie de citoyen céleste digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Et puis enfin, pour terminer, dans le psaume 144, les deux premiers versets, psaume 144, où on va même aller jusqu'au verset 4. Psaume 144, versets 1 à 4, psaume de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. C'est vrai, Seigneur. C'est tout d'abord ce que nous voulons reconnaître. Nous sommes des êtres fragiles. Nous sommes des êtres infiniment vulnérables. Et pourtant, Seigneur, tu nous as mis dans ton armée. Tu as fait de nous gracieusement tes combattants. Tu exerces nos mains au combat. Tu nous équipes. Et nous te bénissons de ce que tu veuilles te servir aussi de ces quelques rencontres pour nous exercer, pour nous former. Merci Seigneur pour ce temps d'entraînement au combat que représente ce week-end. Accorde-nous la grâce d'être tous ensemble et individuellement des apprentis soldats dociles aux ordres du grand capitaine. Mais merci de ce qu'au-delà de cette haute position, tu es aussi un Père merveilleux que nous adorons en Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc lu ce chapitre 17 du livre de l'Exode qui, vous le savez, s'inscrit dans le cadre de la progression d'un peuple, le peuple d'Israël qui vient de connaître la libération la plus extraordinaire qui soit, dont il sera d'ailleurs très très souvent question dans l'Ancien Testament. Un peuple qui se sera placé au bénéfice d'un sacrifice, sacrifice sanglant, le sang d'un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an, aura coulé aura enduit les montants des portes de ces demeures d'Israélites en Égypte. Et à cause de ce sang versé, Israël va devenir, le jour de la Pâque, véritablement le peuple de Dieu. À cause du sang versé. Et ce qui est frappant, c'est que la sortie d'Israël du pays d'Égypte, c'est avant tout la sortie d'une armée en marche. J'en veux pour preuve, par exemple, Exode 12, 37-38, où il nous est dit que les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux, nous allons y revenir. Si vous allez au verset 41, il est dit qu'au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées ou toutes les troupes de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Si vous allez au verset 51, ce même jour, ce jour précis, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées ou en troupes organisées. Si vous allez au chapitre 13 et au verset 18, Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes ou tout équipés hors du pays d'Égypte. Des hommes en armes, c'est la dominante du texte. Et il est d'ailleurs intéressant de remarquer, nous l'avons lu, au chapitre 12, verset 38, qu'il y a un contraste dans ce peuple qui quitte l'Égypte. Il y a une sorte d'anomalie, quelque chose qui cloche. Vous avez tout d'abord 600 000 hommes armés, hommes de pied, et puis une multitude de gens de toute espèce. Une autre version traduira tout un ramassis, littéralement un mélange nombreux. D'un côté des soldats, et de l'autre, une espèce de magma, un ramassis, un mélange. C'est-à-dire des profiteurs. Des gens qui ont assisté à la déroute terrifiante de toutes les divinités égyptiennes. Battues à plate couture les unes après les autres. Jusqu'à ce que même le trône de Pharaon soit secoué sur sa base avec la mort subite de celui qui est appelé à succéder au Pharaon régnant. Et donc, devant cette succession d'événements de plus en plus tragiques, il y a là des gens qui se disent « Décidément, ce Dieu des Juifs est le plus fort. C'est un Dieu intéressant. » Et puisque le vent tourne du côté de ce Dieu-là, eh bien, allons dans le même sens. Et donc, vous avez des gens qui ont quitté l'Égypte, qui ne s'étaient pas placés au bénéfice du sang, qui n'avaient pas offert les agneaux, qui peut-être même au fond de leur cœur continuaient à chérir leur petite divinité personnelle, ou qui peut-être avaient tout laissé tomber par-dessus bord dans cette déroute des divinités égyptiennes, sans pour autant entrer dans une relation personnelle avec le Dieu d'Israël.
mais qui simplement se conduisait en profiteur. Ou, disons d'une autre manière, en opportuniste. Allons du côté où on obtient le plus. Je suis né à la frontière franco-luxembourgeoise, à une centaine de mètres de la douane, dans une région où, comme dans les pays de l'Est et du Nord, le 6 décembre, on fête Saint-Nicolas. Et quand j'étais enfant, j'avais un problème par rapport à Saint-Nicolas, tout simplement parce que je suis de famille protestante, de longue tradition protestante. Et je fréquentais donc avec mes parents une église réformée de la frontière franco-luxembourgeoise. Et bien entendu, comme de surcroît, j'étais un des rares protestants du coin, j'étais le seul protestant dans mon école, il y avait quelques centaines d'élèves et j'étais le seul protestant, j'étais connu comme le protestant. Si bien que mes camarades, vous savez, c'était juste après la guerre, mes camarades vivaient la guerre de religion avec un plaisir évident. Ils m'enfermaient dans les WC et me traitaient de tous les noms les plus jolis et les moins agréables, et jusqu'au moment où le brave instituteur, très gentil d'ailleurs, venait me délivrer, me sortir de ma situation très embarrassante. Et je disais qu'à Saint-Nicolas, j'avais un problème. Parce que mon père me disait, tu sais, Maurice, nous ne croyons pas à Saint-Nicolas. Parce que Saint-Nicolas n'est pas dans la Bible. Et nous ne croyons d'ailleurs pas au saint dans ce qu'enseigne la doctrine de l'Église catholique. Donc, bien entendu, dans notre vie de famille, il n'est pas question de fêter Saint-Nicolas. Vous croyez que ça m'arrangeait ? Ah, si c'était Père Fouettard, ça je voulais bien, parce qu'il était toujours dans l'ombre de Saint-Nicolas pour distribuer les trics aux mauvais élèves, n'est-ce pas ? Alors, ce qui se passait était tout simple. J'étais un bon protestant 364 jours sur 365. Mais le soir du 5 décembre, je m'apprêtais à devenir catholique. Parce que je voulais absolument, le 6 décembre, profiter des avantages de Saint-Nicolas. Peut-être pas chez moi, mais à l'école, dans la rue, partout où c'était possible, j'étais devenu un bon catholique. Et le 7 décembre au matin, j'étais redevenu le champion des protestants de la région. J'étais un opportuniste. Et ça, c'est un problème. Dans ce cas-là, ça ne portait guère à conséquence. Mais dans l'histoire du peuple d'Israël, ce ramassis n'était pas fait de combattants. Ce n'étaient pas des hommes en armes. C'était des profiteurs. Et tant qu'en quelque sorte, entre guillemets, comprenons-nous, le ciel a été bleu, mais ils étaient contents. Mais vous savez, dans la suite de l'histoire d'Israël, qu'il n'en a pas toujours été ainsi dans le désert. Hein ? Les épreuves sont arrivées. Les jugements de Dieu aussi sont arrivés. Et on retrouve, par exemple, dans Nombre au chapitre 11, ce ramassis. Après qu'il y a eu un murmure du peuple au verset 1er, Nombre 11, verset 1er, le peuple murmura, cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à celui le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Et qu'est-il dit tout de suite après ? Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte, etc. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce ramassis d'opportunistes fomentait le trouble. Ils ont organisé des syndicats, pardon de le dire, à la mode de cette fin de XXe siècle, pour fomenter le trouble, pour se rebeller contre Dieu, parce qu'ils ne pouvaient pas accepter de vivre véritablement sous l'autorité de Dieu, dans les bons comme dans les mauvais jours. Il voulait profiter des avantages sans accepter les inconvénients. Et c'est un premier défi qui nous est lancé ce soir. Et moi, je vous pose la question, je vous en poserai tout au long de ce week-end. Honnêtement, où nous situons-nous ? Dans quel camp nous classons-nous ? Je vais vous dire peut-être quelque chose qui va vous choquer ce soir. Je trouve que nos églises évangéliques sont de plus en plus des églises de multitudes. C'est-à-dire des églises dans lesquelles il y a un petit noyau d'hommes et de femmes véritablement convertis en Jésus-Christ. Et autour de ce petit noyau gravite des personnes évangéliques, souvent même baptisées, mais dont on finit par se demander si elles sont véritablement régénérées. Parce que nous avons pris l'habitude de vouloir gagner tellement les gens à l'Évangile que nous oublions trop souvent de leur présenter de manière claire les exigences de l'Évangile. Nous oublions de leur dire, quand nous voulons les amener à Christ, que la vie chrétienne est un combat. Parce qu'après tout, c'est relativement facile de lever une main dans une réunion. C'est beaucoup plus difficile de venir capituler au pied de la croix et de déposer des idoles secrètes que l'on traîne parfois pendant des années et qui un jour, 10 ans, 20 ans après notre soi-disant conversion, explosent comme une grenade au milieu de l'église locale dans laquelle nous sommes membres. Et tout le monde est étonné. Mais le problème n'avait pas été réglé à l'origine. On était simplement partisans de la théologie de Saint-Nicolas. Alors je voudrais que déjà pendant ce week-end, d'emblée, dès ce soir, nous acceptions de clairement nous situer. Dans quel camp sommes-nous ? Parce que si nous sommes véritablement des disciples de Jésus-Christ, nous nous inscrivons obligatoirement dans le camp des combattants. Et cela m'amène à poser une deuxième question ce soir dans cette introduction. Est-ce que vous et moi, nous avons réellement le sentiment que nous sommes dans un combat ? C'est facile à dire, on est dans un combat. Ça peut faire même très bien dans ce week-end de dire qu'on est dans un combat, puisque c'est notre thème. Alors c'est logique de dire qu'on est dans un combat. Mais moi je vous pose la question ce soir. Est-ce que vous avez, vous personnellement, dans votre vie, le sentiment que vous êtes engagé dans un grand combat spirituel ? Est-ce que vous avez l'impression que la puissance des ténèbres s'attaque à vous parce que vous êtes à Jésus-Christ. Parce que quand on appartient à Jésus-Christ, la puissance des ténèbres s'attaque à nous. Plus vous vivez près du grand capitaine, plus on vous tire dessus. Et je pourrais vous raconter tant d'histoires qui me font croire que je suis engagé dans un combat. Croyez-moi, pratiquement chaque série de conférences, et j'en suis à mon 6e week-end successif, chaque série de conférences pour moi est un combat dans lequel chaque fois l'ennemi attaque par un autre côté. Chaque fois l'ennemi essaye de déstabiliser. Et savez-vous que c'est cela ce qui me donne l'assurance? Je me dis, ah, si l'ennemi s'intéresse à moi, ça vaut le coup. C'est que le Seigneur doit être quelque part à l'œuvre. Oh, attention, je ne veux pas parler de ces problèmes que nous pouvons avoir, de ces luttes qui sont directement liées à notre péché. Parce qu'il y a combat et combat. Je peux vivre de ces luttes terribles parce que je suis en train de vivre simplement dans le péché. C'est une lutte d'un autre ordre. Et là, le Seigneur voudrait, au contraire, nous voir cesser de combattre pour venir à la croix, pour demander pardon, pour lâcher un fardeau, pour régler un problème, de manière à ce que nous puissions entrer dans le vrai combat. Tant que l'ennemi peut nous tenir occupés par des combats, n'est-ce pas, parce que nous sommes en train de flirter avec le péché, avec l'impureté, avec des problèmes de sexualité, d'argent, de mauvaises relations, de la langue, etc. Tant qu'il peut nous tenir comme ça, ça l'arrange. Parce que nous ne pouvons pas alors vivre les vrais combats. Vous voyez que c'est quand même subtil, hein ? Faisons bien la part des choses. L'Église est une armée de combattants. Le prince des prédicateurs Spurgeon décrit, elle n'est pas un hôtel de luxe où des gentilshommes chrétiens se prélassent chacun dans l'aise de sa suite particulière. Il s'agit d'une caserne où des soldats s'assemblent pour se former à la guerre. Elle n'est pas une association consacrée à l'admiration et à la consolation mutuelle, mais des troupes sous leur bannière en marche pour prendre d'assaut les forteresses de l'ennemi, remporter des victoires pour Christ, ajouter des provinces au royaume du Rédempteur. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué la densité du vocabulaire qui tourne autour du combat dans le Nouveau Testament. Et encore, cette densité apparaît blafarde, palote, dans nos textes français. Si nous allons dans le texte grec, alors nous trouvons une multitude de termes qui appartiennent au langage de l'armée militaire ou au langage du combat dans le sport. Rien que dans le petit texte que nous avons lu dans Philippiens chapitre 1er, il y avait 4 mots qui tous appartenaient soit au langage de l'armée, soit au langage du combat dans le domaine sportif. Et toutes les épîtres de Paul, pour ne parler que d'elles, sont tissées d'un langage qui tourne si souvent autour de la guerre, du combat, avec des mots très forts. Ce mot, nous l'avons lu tout à l'heure dans Philippiens 1, ce mot qui a donné agonie, l'agona en grec. Un combat extrêmement fort. Nous sommes engagé dans une guerre spirituelle. Je pense au témoignage de cette personne qui écrit ceci. Avant que je vienne ici, j'étais engagé dans une vie de plaisir sexuel, de jeu. Je me sentais réellement bien. C'était passionnant. Depuis que j'ai décidé de me donner vraiment au Christ, j'ai découvert que la vie était un combat. La vie mondaine était plus facile et plus heureuse que la vie chrétienne. Puis elle ajouta, mais pour rien au monde, je ne voudrais retourner en arrière. Il n'y a pas à tergiverser, j'ai goûté la réalité. Et bien qu'elle soit parfois douloureuse, je la désire encore davantage. La vie est faite de cela. Pour la première fois, je me sens vraiment vivre, je suis dans le coup. À l'unisson avec moi-même, cela me fait mal comme le feu, mais cela en vaut la peine. Car je me sens maintenant une personne. Est-ce que nous sommes vraiment des combattants? Est-ce que nous voulons véritablement être honnêtes avec nous-mêmes, d'abord avec Dieu ensuite, pour faire vraiment justement le point? Oh, d'ailleurs, nous le dirons, vous savez, aujourd'hui, en 1996, dans le climat qui prévaut dans nos pays industrialisés, en ère post-chrétienne, où très rapidement le monde est en train de devenir anti-Dieu, au plus haut point, celui qui n'opte pas pour une vraie vie de combat, celui qui ne se consacre pas pour une vraie vie de combat aux côtés du Seigneur, eh bien, très vite, il se perd. C'est fini le temps du petit consensus dans un pays de France qui bénéficiait de tous les avantages de la réforme, d'une certaine paix. C'est fini. Nous sommes entrés de toute manière. Et vous allez voir que ça va s'accélérer. Nous sommes entrés dans une période où le combat va devenir de plus en plus fort. Et nous nous souvenons que dans le combat qui n'avance pas, recule. La stagnation, le surplace, ça n'existe pas. Si vous ne combattez pas avec le Seigneur, à fond de son côté, vous allez reculer. À partir de là, une autre remarque que j'ai laissé déjà sous-entendre, à savoir qu'il nous faut combattre le bon combat. Il suffit d'ailleurs de lire les premières et deuxièmes lettres de Paul à Timothée pour s'en convaincre, puisque dans ses épîtres, l'apôtre Paul parle en quelque sorte de Timothée comme étant le beau soldat de Jésus-Christ, le bon soldat et le beau soldat de Jésus-Christ, de Timothée 2:3. Et à plusieurs reprises, il lui dit « il faut que tu combattes le bon ou le beau combat ». 1 Timothée 1:18, 1 Timothée 4:10, nous travaillons et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. 1 Timothée 6:12, combat le bon combat de la foi. 2 Timothée 4:7, j'ai combattu le bon combat. C'est quand même curieux que dans cet épître, d'une manière toute spéciale, l'apôtre Paul insiste sur ce qualificatif. Combattre le bon combat, le beau combat. Pourquoi ? Parce qu'il existe un mauvais combat. Il existe un combat laid. Il existe un combat hideux. Hideux dans son style, dans ses motifs profonds, dans les personnes et les situations qu'il vise, dans ses objectifs. Il ne faut pas se tromper de cible. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Vous savez par exemple que rien n'est pire que la guerre civile. Il y a un an exactement, à pareille époque, mon épouse et moi, nous étions au Liban et en Syrie. Et nous avons pu constater sur place pendant 3 semaines les dégâts épouvantables occasionnés par cette terrible guerre libano-syrienne, mais aussi qui a opposé de manière terriblement violente et cruelle ces factions rivales au Liban. Je me souviens d'une journée où nous avons fait quelques 240 kilomètres et où mon épouse a compté 67 barrages. Où il fallait bien sûr ralentir, regarder avec un grand sourire, faire attention pour ne pas déclencher les ires, etc. Et c'était tout le symbole du drame d'une guerre qui, c'est vrai, officiellement a cessé, mais que de haine encore. Un si beau pays. Trop souvent, nos églises sont comme ça. On se tire dessus. Que de drames relationnels dans nos églises. Combien l'ennemi se plaît à nous diviser? Combien nous tirons facilement sur nos frères, n'est-ce pas?
C'est pour cela que l'apôtre Paul parle de la nécessité de vivre un beau combat. Repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles, des batailles, littéralement, des combats. De Timothée 2, 23. Acte 5, 39. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Matthieu 12, 25. Toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Galates 5, 15. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres.
Et si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez que tout au long de l'histoire des guerres dans le monde, il y a eu comme ça des armées qui, au lieu d'affronter l'ennemi, à cause de toutes sortes de raisons, de brouillards et autres, se sont affrontés sans le savoir. On s'est tiré dessus. Et quand le brouillard s'est dissipé, on s'est rendu compte, oh horreur, qu'au lieu de tirer sur l'ennemi, on avait tiré sur les copains. Je pense à cette guerre au Canada entre les Britanniques et les Français en 1705. Le commandant de la flotte britannique, l'amiral Phillips, qui avait reçu l'ordre de jeter l'ancre à l'extérieur de Québec. Il devait attendre l'arrivée de troupes d'infanterie britanniques et les soutenir ensuite lorsqu'elles attaqueraient la ville. Et la marine de cet amiral arriva très tôt. Et pendant qu'il était là à attendre, il a vu toutes les statues, notamment des statues sur une cathédrale toute proche, des statues de saints. Et pour passer le temps, il ordonna à ses hommes de tirer sur elles avec les canons du navire. On ne sait pas très bien combien de salves furent tirées, mais toujours est-il que lorsque les troupes d'infanterie arrivèrent et que le signal d'alarme d'attaquer fut donné, l'amiral n'avait plus de munitions. On avait tiré sur les saints, entre guillemets. Alors que ce week-end serve aussi à faire cesser certains combats inutiles. Que nous venions à la croix avec notre orgueil, peut-être parce que Dieu nous dit depuis si longtemps, mais qu'est-ce que tu attends pour aller la voir, cette sœur, pour aller le voir, ce frère ? Et lui demander pardon. Qu'est-ce que tu attends pour régler ce problème? Qu'est-ce que tu attends pour déposer tes médisances et tes calomnies à la croix? Pour cesser simplement, gratuitement, de répandre des bruits sur tel et un tel parce que tu ne peux pas le piffrer, tu ne peux pas le sentir, son visage ne te revient pas. Et pourtant tu prends la scène avec lui. Alors qu'est-ce que tu attends?
Comment veux-tu combattre pour moi alors que tu es en train de combattre contre moi? Parce que quand tu combats contre l'Église, c'est contre moi que tu combats, parce que c'est mon Église. Ce n'est pas l'Église de Saint-Quentin-en-Yvelines, ça n'existe pas, ça. C'est l'Église de Dieu à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est pas la même chose. Donc quand nous nous disputons, quand nous nous chamaillons, c'est Dieu que nous attaquons. Et le résultat, c'est que pendant ce temps, l'Église de Jésus-Christ n'avance pas dans son entreprise de conquête. Que d'églises bloquées à l'heure actuelle, vous savez, j'en visite. Bloquées, mais simplement parce qu'elles sont divisées par la rancune, l'absence d'esprit de pardon, parce qu'on ne se demande pas pardon, parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on tourne autour du moi, parce qu'on n'a pas réglé un certain nombre de problèmes dans le domaine de l'argent et dans tant d'autres domaines. On lutte avec le Saint-Esprit, on lutte contre les autres, on lutte avec soi-même. Et le résultat, c'est que un tas d'efforts, un tas d'énergie est utilisé et détourné de ses véritables objectifs. Et on s'use. Et on se décourage. Et pendant ce temps, des hommes et des femmes autour de nous meurent sans connaître Jésus-Christ. C'était une deuxième remarque. En voici une troisième. Ce qui est beau, et nous l'avons lu, c'est que le combat, le vrai combat, le bon combat, celui qui va nous intéresser jusqu'à dimanche après-midi, le bon combat, le beau combat est dosé par le Seigneur. Il est dosé par le Seigneur pour que nous puissions le vivre convenablement, pour que nous puissions être rendus capables de vaincre. C'est là que nous avons un Dieu extraordinaire. Je le développe d'ailleurs dans un de mes livres, Exode 13, n'est-ce pas, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Pourtant, les soldats montent en armes. Le texte le dit juste après, hein. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Et pourtant, bien qu'ils aient été équipés, Dieu se dit non, ils ne passeront pas par le pays des Philistins, par le chemin le plus court. Parce que là, il y a des armoires à glace tellement énormes qui sont suréquipées. Et c'est vrai que les chars de guerre, les épées, tout le matériel de fer... Oh, les Philistins étaient largement en avance sur tous les pays environnants. C'étaient des hommes aguerris, ils avaient l'habitude de se battre. Le peuple d'Israël avait encore beaucoup de choses à apprendre. Il avait besoin d'entraînement, il fallait passer par le camp d'entraînement du Sinaï, les champs de tir du Sinaï. Il fallait être bien préparé. Plus tard viendrait alors la guerre contre les Philistins. Mais c'était trop tôt. Et ça, ça a certainement dû être difficile à avaler par le peuple d'Israël. Comment ? Dieu qui nous fait faire un détour ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais Dieu était bon. Nous avons un Dieu, un Père extraordinaire. Il n'est pas comme nous, parents, qui parfois exposons nos enfants à des combats qu'ils ne sont pas encore capables de mener. Nous sommes dans une société qui impose à nos enfants des combats qu'ils sont incapables de mener. Et une des tâches les plus difficiles dans notre rôle de parents, c'est de savoir jusqu'où est-ce que nous pouvons exposer nos enfants sans qu'ils soient trop en danger. Et comment ne pas, d'un autre côté, les surprotéger pour qu'ils puissent développer des anticorps de manière à pouvoir plus tard lutter quand ils seront eux seuls devant l'ennemi. Ça, c'est difficile dans la vie. Mais je bénis Dieu de ce que dans la vie chrétienne, nous avons un Dieu extraordinaire qui, lui, sait doser, qui lui sait ne pas nous surexposer, ni nous sous-exposer. C'est pas vers lui qu'il faut tendre le poing dans une espèce de rébellion en lui disant « Mais pourquoi est-ce que tu as permis ?» Dieu ne nous expose pas inutilement. Parfois, notre problème, c'est que nous nous exposons inutilement. Dieu voudrait nous en empêcher. Mais nous sommes tellement présomptueux, nous nous croyons tellement forts, nous avons encore tellement d'illusions sur nous-mêmes que nous nous plaçons dans des situations où nous sommes mal armés, l'ennemi nous rentre dedans et heureusement le Seigneur dans sa bonté nous arrache encore aux griffes de la puissance des ténèbres. Ah, s'il n'était pas un bon père, il nous laisserait tomber. Mais il nous aime trop. Les mets des détours incompréhensibles pour lesquels nous apprenons peu à peu à dire Seigneur merci. Je n'ai pas très bien compris la déviation, mais avec le recul je constate Seigneur que tu m'as certainement évité bien des pépins, bien des drames. Tu as voulu m'épargner, tu as voulu m'équiper. J'avais encore trop de choses à apprendre, j'avais pas fini mes classes. Seigneur merci. À partir de ces trois remarques d'introduction, nous dirons ceci, c'est que Exode, chapitre 17, 8 à 16, contient un certain nombre d'enseignements fondamentaux concernant la guerre spirituelle. Pour ma part, j'ai pu relever au moins 9 caractéristiques de la guerre spirituelle dans ces versets 8 et suivants d'Exode 17. Alors nous allons tenter de dégager clairement quelques-unes de ces caractéristiques du combat d'Amalek contre Israël. Nous nous arrêterons plus longuement sur certaines d'entre elles, notamment celle de demain soir, parce qu'elle est fondamentale. Et d'autres encore, nous essayerons de discerner ce qui vaut particulièrement la peine qu'on s'y arrête, et puis nous passerons un petit peu comme chat sur braise, parce que nous sommes limités par le temps, sur d'autres caractéristiques. Mais notre but, c'est d'apprendre à être de beaux combattants. Et j'aime à dire que pour que l'Église devienne une armée de bons combattants, Dieu permet que nous connaissions et apprenions la guerre spirituelle dans des situations d'épreuve. Ça a été une situation d'épreuve, ce verset 8. Amalek vint combattre. Ça a été une situation difficile. Dans Juges 3, dans les premiers versets, écoutez ceci. « Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement, l'Éternel, que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. » Ça fait aussi partie de la stratégie de Dieu. De la même manière que d'un côté, Dieu empêche son peuple de se trouver en face des géants philistins. D'un autre côté, Dieu permet que des peuples s'attaquent à Israël, de manière à ce qu'ils apprennent la guerre. Il fallait qu'une génération apprenne la guerre, parce qu'elle ne l'avait pas connue. Alors Dieu permet en effet dans vos vies comme dans la mienne des situations où nous devons apprendre la guerre. Et c'est pour cela qu'il est important, nous le redirons certainement dans notre conclusion dimanche après-midi, il est important de voir derrière l'ennemi la personne de Dieu. Si nous nous arrêtons simplement à l'ennemi, nous aurons des problèmes. Si notre vision ne va pas plus loin que l'ennemi, nous penserons que l'ennemi est le grand vainqueur. qu'il est le souverain. Par contre, si nous voyons que Dieu laisse l'ennemi en face de nous pour nous apprendre la guerre, pour que nous devenions de bons combattants et des vainqueurs, ça change tout. Cela va nous empêcher de dire partout, ben, c'est Satan, c'est le diable, n'est-ce pas ? Cela nous évitera d'être toujours en train de donner un honneur au diable. N'exaltons pas la puissance des ténèbres. La Bible nous dit que nous devons simplement la respecter. Nous n'avons pas à l'injurier. Mais ne l'exaltons pas. Parce que Dieu est souverain. Il est derrière. Il est derrière ces situations difficiles que nous connaissons. Et il nous apprend beaucoup de choses. C'est donc dès la sortie d'Égypte que le combat va commencer. Il va d'ailleurs commencer très vite avec la riposte de Pharaon, hein. Très vite, Pharaon se sent frustré lorsqu'il voit toute cette main-d'œuvre à bon marché qui lui a échappé. Et il contre-attaque. Et je fais remarquer, mais nous y reviendrons parce que nous ne plaçons que des jalons ce soir. Je vous fais remarquer que c'est Dieu qui se révèle comme le combattant victorieux. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait dire par Moïse à son peuple, écoutez, tenez-vous là dans le calme. Ne bougez pas. Faites-moi confiance. C'est moi qui prends le problème en main, hein, Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 25, les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Chapitre 15, verset 2 et suivant. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée, ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge, etc. C'est extraordinaire parce que là, dans toute cette première partie du combat qui suit, la délivrance hors d'Égypte par la Pâque, qu'est-ce qui se passe ? Le peuple ne combat pas. Le peuple apprend à regarder au Seigneur. Le peuple apprend à se reposer dans le Seigneur, à faire confiance au Seigneur. C'est moi qui me bats. Et Dieu va utiliser les éléments qui vont se déchaîner, n'est-ce pas ? Le Dieu du cosmos, de l'univers va utiliser tout cela. Les Juifs ne vont pas dégainer un seul instant. Mais, avec l'attaque perfide d'Amalek, maintenant c'est Israël qui va devoir combattre. Là, il y a quelque chose qui change. Au départ, Dieu a tout fait. Et puis maintenant, il faut qu'Israël se batte. Alors nous essayerons de comprendre les leçons déjà de cette différence entre le combat de Dieu dans la traversée de la mer Rouge et le combat d'Israël, mais sous l'autorité de Dieu, contre Amalek. Simplement, permettez que nous terminions en soulignant une première caractéristique de ce combat. Qu'au moins nous en ayons vu une après ce préalable nécessaire qui est destiné vraiment à nous interpeller pour que Dieu puisse travailler dans nos cœurs. Ce que j'aimerais dire en terminant ce soir, c'est que nous sommes engagés dans un combat contre un ennemi rusé, un ennemi qui rôde. Un ennemi d'ailleurs qui de surcroît prend l'initiative de l'attaque. Il n'est pas dit que Israël vint combattre Amalek à Réphidim. Il est dit Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Mais nous avons un éclairage tout à fait particulier dans Deutéronome 25, versets 17-18. Deutéronome 25, 17 à 18. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière. Surtout ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays qu'il te donne, en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Et là, manifestement, on sent en quelque sorte que Dieu est fâché. Il y a là comme le courroux de Dieu. À cause de cette lâcheté de l'ennemi, cet ennemi rusé qui rôde, qui s'attaque par derrière, sur les traînards, au moment où le peuple est épuisé. Dans un de ses livres, Billy Graham écrit « Nous sommes vulnérables concernant le temps. Beaucoup trop d'entre nous sommes si occupés que nous trébuchons dans un étourdissement, épuisés, trop fatigués pour penser, encore moins pour nous remettre en question. » Les chefs de secte gardent leurs membres très occupés. L'épuisement s'installe, la séduction suit. Au cœur du calendrier chrétien se trouve le jour du repos. Et au centre de ce jour de sabbat, il y a le point de vue de Dieu sur sa création. À moins d'entretenir notre force physique, nous perdrons aussi notre résistance spirituelle et psychologique. Au centre du lavage du cerveau se tient l'épuisement. Le cavalier sur le cheval blanc aime nous voir trop fatigués pour résister. Cela rend son œuvre de séduction encore plus facile. Et je suis heureux dans un sens que nous terminions par là ce soir, parce que nous sommes fatigués. Nous sommes vendredi soir, nous sommes pratiquement à la fin d'une semaine. Et donc quand nous parlons ce soir en terminant de fatigue, nous savons ce que c'est. Et nous savons que quand on est fatigué, on est tenté de baisser les bras. Ça, c'était le problème d'Israël. Un certain nombre de gens étaient las, fatigués, épuisés, ils en avaient assez, ils se traînaient derrière comme ils pouvaient. Peut-être très déçus, parce qu'ils avaient espéré autre chose en quittant l'Égypte. Et je pourrais prendre tant d'exemples avec vous, vous les trouverez dans un de mes livres. Sur la gestion du temps, l'épuisement d'Ésaü, qui rentre de la chasse. Ah, il a galopé tout au long de la journée pour débusquer les animaux. Il rentre, il est sur les rotules, il n'en peut plus, affamé. Et ventre affamé, vous connaissez le proverbe. Et quand l'odeur du bon fumé, du bon potage de Jacob... Et vous savez, quel a été le drame de la vie d'Ésaü ? Trop fatigué, il était incapable de garder une juste évaluation des vraies valeurs. Et le texte de Genèse 25, 29 à 34 le dit deux ou trois fois. Il était tellement fatigué, il était tellement lassé, qu'il a méprisé la bénédiction de Dieu. Ce qui l'intéressait, c'est C'était un bon plat. C'est ce qui comptait le plus. Bien se remplir la panse. Oh, bénédiction de Dieu. De toute façon, ce n'était pas pour tout de suite. Le problème, c'est qu'il avait trop courte vue. Et quand on est épuisé, généralement, on a courte vue. Quand on est fatigué, on a courte vue. On ne vit plus dans le long terme de Dieu. L'essentiel, c'est le tout de suite. C'est pour ça que quand on est fatigué, eh bien, on peut tomber plus facilement dans le péché de la sexualité. On ne voit plus le long terme. On ne voit plus qu'au-delà de l'adultère, il y a déjà la rupture du mariage. Les enfants qui vont supporter les conséquences. L'installation dans une vie de chaos, etc. On ne voit pas ça. On est fatigué. Alors simplement, ce qui compte, c'est la jouissance du moment. Et nous pourrions ainsi prendre tant d'autres textes dans l'histoire de David, Achitophel, qui propose à Absalom de lancer une offensive contre son père David en profitant de sa fatigue. Les géants philistins qui s'attaquent les uns après les autres à David parce qu'il est âgé, qu'il est fatigué. Il y a tant d'exemples de ce genre dans les Écritures. La fatigue émousse notre vigilance, déforme notre vision des êtres, des choses et des circonstances. Elle nous rend irritables, agressifs, excités, ou au contraire abattus, angoissés, prompt au laisser-aller, dépressif, mollasson. Et j'aimerais vous dire ce soir que notre problème dans notre combat spirituel, c'est que par exemple, nous ne savons plus dormir la nuit. Nous ne savons plus faire dodo. Nous nous couchons à des heures impossibles. C'est vrai qu'il y a des situations légitimes. Il y a des situations où on ne peut pas dormir, c'est vrai. Celles-là, Dieu les connaît. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces situations, Dieu est capable de nous accorder la grâce nécessaire pour les vivre. Mais attention, seulement celles-là. Parce qu'il y a toutes les situations que nous ajoutons qui n'entrent pas dans le plan de Dieu, mais dans le nôtre. Toutes ces fatigues dues au fait que le lundi on se couche à 10h30, le mardi à 11h, le mercredi à 11h30, le jeudi à minuit moins le quart, le vendredi à 1h du matin, n'est-ce pas? Puis le dimanche, on est tellement fatigué. Vous comprenez ce que je veux dire? Si nous sommes dans un combat spirituel, si vraiment nous en avons conscience, il faut que nous mettions tous les facteurs de notre côté. Ça veut dire que autant que faire se peut, nous apprenions à dormir quand Dieu nous dit « maintenant tu vas au dodo » et la télé, tu la boucles. D'autant plus que quand tu allumes la télé, trop souvent tu me mets sur un siège éjectable. Je ne tiens pas le coup plus de 2 minutes et je m'en vais, dit le Seigneur. Je pense que nous nous sommes compris ce soir. Faut-il, et j'arrête, dire que, vous avez remarqué que, avant l'histoire d'Amalek, il y a une autre histoire. Vous avez remarqué que nous avons lu à partir du verset premier, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Eh bien, Israël a murmuré. Israël s'est révolté. C'est-à-dire qu'Israël avait mauvais moral. Israël a grogné. Israël a cherché querelle à Moïse, a tenté l'Éternel, a contesté, a murmuré. Et mes amis, faut-il le dire? Le mécontentement, la contestation, la revendication, les murmures sapent l'énergie et prédisposent aux assauts du diable. Alors, mes amis, si nous avons cultivé aujourd'hui un caractère qui fait de nous des moulins à café qui broient du noir, ne nous étonnons pas si nous sommes vaincus. Si nous vivons comme ce monde un climat de revendication permanente, si nous sommes en train du matin au soir de nous plaindre de ce qui ne va pas, au lieu de compter les bienfaits de Dieu pour tout ce qu'il nous donne et que toute une partie de notre monde n'a pas, ne nous étonnons pas. Parce qu'en réalité, c'est Réphidim et les murmures de Massa et de Meriba qui ont préparé l'attaque d'Amalek. Cultivez le murmure. Commencez à revendiquer. Plaignez-vous, soyez amers. Et vous allez voir comment Amalek va se dresser très vite pour en profiter. Nous voulons prier. Seigneur, tu as voulu ce soir nous rencontrer. Certainement nous déranger parce que tu nous aimes. Donne-nous d'être sensibles à l'action dans nos vies de ton esprit par ta parole. Et Seigneur, ce que je te demande, c'est que quand nous allons rentrer chez nous, dans les domaines où tu as souligné quelque chose qui nous concernait personnellement, Seigneur, donne-nous aussitôt de changer d'attitude. Nous n'avons pas la force en nous-mêmes, mais Seigneur, tu donnes la force à ceux qui se tournent vers toi. Alors nous voulons être honnêtes devant toi, te dire tout ce qui nous ennuie, tout ce qui nous tracasse, tout ce qui va de travers. Nous comptons sur toi. Et simplement, sous ton contrôle, nous mettons notre volonté en action, dans la direction de ta volonté, pour que tu puisses demain nous aider à aller plus loin. Ô Seigneur, rencontre-nous pendant ce week-end. S'il te plaît, nous ne voulons pas moins que cela. Pas simplement un programme d'église parce que c'est inscrit. Non, nous voulons plus. Que tu nous rencontres, que tu sois le Dieu vivant pour chacun d'entre nous. Maintenant, Seigneur, donne-nous le repos dont nous avons besoin. Merci de renouveler nos forces pour le combat de demain. Gloire te soit rendue, nous te bénissons et nous te disons que nous t'aimons en Jésus-Christ. Amen.